Nous sommes arrivés au camp de Buchenwald, venant de Brendonck, le 8 mai 1944, à 1h du matin. On a descendu le wagon, nous avons dû sauter sur le quai et nous mettre en rang. Passant près d'un SS, presque chacun recevait un coup de cravache. Nous nous sommes mis en marche en direction du camp, et les SS permettaient aux chiens de s'approcher pour mordre les détenus. Au-dessus de la porte d'entrée du camp se trouvait une inscription. « Que tu aies raison ou que tu aies tort, tu es ma patrie ». Cette inscription était, pour le détenu qui entrait au camp, particulièrement déprimante, et lui laissait entrevoir ce qu'il attendait. Je pense fort à vous, André.
Mon père était André Simonard, professeur à l'Université de Louvain en pharmacologie. Il enseignait dans les deux langues, le néerlandais et le français. Je m'appelle Anne-Marie, je suis la quatrième de 10 enfants. J'ai pu travailler avec mon père comme secrétaire. Nous étions très proches, papa et moi. Le jeudi soir, à la prière, il avait dit « Voilà, demain, nous irons à la messe. » Partez donc à vélo, prenez un petit... Il avait mis une petite selle sur la barre devant, prenez un enfant là, un sur son porte-bagages. Et nous avions nos petits vélos et on accompagnait. Et c'est durant la nuit de ce jeudi, au premier vendredi du mois, qu'il a été arrêté. Pour ma part, j'avais 6 ans. Les Allemands ont tout de suite cerné la maison. Et mon père avait un rêve. Il rêvait qu'il était dans un bureau et qu'on claquait bruyamment les tiroirs. Et au fond, c'était les crosses des Allemands qui tapaient sur la porte en bas. Alors il s'est levé, sans faire de bruit. Il a été à la porte devant, il a entendu qu'on parlait. Il a essayé par derrière, la porte arrière, mais là, un Allemand allumait une cigarette. Donc il s'est dit, la maison est cernée. Il est retourné dans sa chambre et c'est maman qui est descendue pour ouvrir. Il y avait un commandant allemand qui était très correct, mais alors il y avait ce qu'on appelait chez nous, de Zwarte, les collaborateurs, quoi. Et alors, ils sont montés dans toutes les chambres. Et moi, j'étais donc dans mon petit lit, dans une chambre avec ma sœur aînée. Et ils sont entrés dans ma chambre avec une lampe de poche et m'ont réveillée avec cette lampe de poche. Je n'oublierai de ma vie. Et j'entends toujours le bruit des bottes des Allemands dans la maison. Alors, voilà, papa a donc été emmené. Maman s'est rendue compte que tout le monde n'était pas sorti. Et que donc, il a appelé. Elle a appelé papa en disant, écoute, Chou, il y a encore des hommes à l'intérieur. Alors, le commandant allemand, qui était très correct, les a tous fait sortir. Et puis, voilà. Ça, c'était son arrestation. Alors, il a d'abord été à Brendonck. Donc, il a été arrêté. Il est resté à Brendonck pendant un an. Et il a été, alors ensuite, en 1944, il a été... On les a transférés à Buchenwald. Ils étaient dans des wagons à bestiaux, entassés. Ils ont jeté par des fentes des wagons des petits papiers disant qui partaient pour l'Allemagne. Et je ne sais pas comment maman l'a su, mais on a su qu'il était parti pour l'Allemagne. Et alors après, il a pu écrire, c'était toujours en allemand. Donc, maman écrivait en français, elle allait au couvent pour faire traduire en allemand, et la lettre de papa arrivait en allemand, et maman les faisait traduire en français. Oui, donc on a tout un recueil, donc avec toutes les lettres que papa et maman se sont envoyées durant pendant un an, donc durant sa détention à Buchenwald. Alors à Buchenwald, il a dû travailler avec brouette et transporter de la terre et des pierres. Il était faible, c'était un intellectuel, c'était pas un manuel, donc il a attrapé d'ailleurs des coups. Et alors finalement, ils ont appris qu'il était médecin, et donc il a eu un régime plus favorable. Je n'ai pas grand souvenir du fait que si j'ai beaucoup souffert du départ de mon de mon père. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son arrestation, bien sûr. Ça, je l'ai encore maintenant. Et alors, la peur aussi, j'ai encore des peurs en moi, de la guerre avec ces avions qui passaient. On a été voir comme ça une ferme où on avait bombardé, les vaches étaient... On a vu les vaches là, carbonisées dans leur étable. Et ce sont des choses comme ça. Le fait aussi, donc, pendant l'école, ben, on devait courir dans les abris. C'était plutôt des choses comme ça, des peurs. Mais sinon, je ne me souviens pas d'avoir spécialement souffert du départ de mon père. J'en ai sûrement souffert, mais... Il n'y a rien de très, très tranchant comme ça dont je me rappelle. Non, ça pas.
Tant la police militaire que la police du parti vont aussi se mettre à arrêter et à juger ceux qu'ils estiment comme un danger pour... l'armée de l'occupation, ou comme des ennemis du Reich, des résistants, des communistes, des juifs, des francs-maçons, des témoins de Jéhovah. Et donc ceux-là, après, seront considérés comme prisonniers politiques.
Je suis Peter Lagroux et j'enseigne l'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles.
Pour les prisonniers politiques, la mortalité est élevée, mais ne fait pas partie d'une politique systématique d'assassinat. Il y a ceux qui sont condamnés à mort et exécutés, plusieurs milliers. Il y a ceux qui vont mourir de faim, de mauvais traitements, de maladies, d'épidémies, surtout, finalement, tout à fait à la fin de la guerre. Donc la très grande mortalité, c'est... D'ailleurs, les périodes les plus mortelles, quasiment, sont les jours qui suivent la libération. Parce qu'ils sont tellement affaiblis, et il y a le typhus, etc. Là, il y a une très forte mortalité. Cette mortalité, elle tourne autour d'un tiers.
Je crois qu'il est un des premiers à être rentré. Ils sont rentrés en avion, je crois, le 18 avril 1945. Ceci, c'est donc la photo. Quand il est rentré, il a tout de suite été reçu à la radio, je ne sais pas laquelle, enfin. Et il est ici sur la photo, terriblement fatigué. Il a les yeux presque fermés, très amaigri. À sa droite, il y a le ministre Van Zeeland. Et à sa gauche, il y a maman. Et il parle au fond, il a les cheveux rasés. Il a donc sa petite veste et le pull qui vraiment... ça, c'est très... On voit que maman est très, très émue. Et papa, il est mort de fatigue. Il ferme les yeux. Il a les yeux à moitié fermés. C'est très touchant, très, très émouvant, je trouve. Oui. Et après être passé à la radio, on l'a amené à la maison. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde pour l'attendre, mais il faisait déjà obscur, donc... Enfin, finalement, on avait décoré toute la cour et tout le monde attendait. Et finalement, il est arrivé fort tard. Et oui, je me rappelle, il est arrivé avec des militaires. Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il y avait des fleurs. Et ça, enfant, je me rappelle, le bain était rempli de fleurs. Oui. Évidemment, il est rentré, c'était plus le même homme. Au début... Il dormait sur la carpette à côté de son lit. Il ne supportait pas. Non, et alors aussi tous les gens qui avaient... il y avait des fils et des fils et des lettres au téléphone. Toutes les personnes qui, sachant que papa était rentré de Buchenwald, qui avaient leur mari, des fils, des amis. Et tout le temps, on venait demander s'il n'avait pas vu ou s'il n'avait pas de nouvelles d'un tel et d'un tel. Ça, je me rappelle. Beaucoup, beaucoup de monde. Et alors, ce qui m'a fort frappé comme enfant, quand il est revenu, ce sont les étudiants qui sont tous venus à Tildon. Ils arrivaient avec une sorte de char à banc, ils venaient à pied, ils venaient avec des bouquets de fleurs. Et enfant, ce qui m'a le plus marqué, c'était quand papa et maman avaient commandé des grands paniers à linge remplis de brioches pour nourrir les étudiants. Ça, je me rappelle. Ouais, c'était magnifique, magnifique. Il a voulu que donc on fasse un mémorial pour rappeler ce qui se passait dans les camps. Et c'est lui qui a été nommé, donc, qui a été le premier président du fort de Brendon. Ça, il a beaucoup tenu à ça. Et il n'a plus jamais voulu retourner en Allemagne. Jamais.